Bonjour chers amis, chers internautes, c'est un immense plaisir de vous avoir dans la présence du Seigneur. Nous allons entrer dans sa présence, nous allons louer le Seigneur. Nous pouvons tous taper dans les mains si nous voulons, on se sent libre, vous louez le Seigneur.
Nous chantons à la gloire de ton nom, tu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassemblés nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons.
Père, merci pour le souffle de vie, merci pour la vie éternelle. Je veux me réjouir dans ta présence, Seigneur. Je veux
me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Je chante Alléluia, 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 Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force.
Nous chantons Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Allez, tous ensemble.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur.
Allez, on va danser ensemble. Allez.
Louons le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant.
Ensemble,
louons le Seigneur, il est vivant. Ouh. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble,
louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est
allez,
vivant.
On danse.
Louons le Seigneur, il est vivant. Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est
vivant.
Jésus est
vivant.
Jésus est vivant.
Élevé.
Jésus est élevé.
Élevé.
Jésus est élevé.
Oh oui, élevé. Glorifié.
Jésus est glorifié.
Glorifié.
Jésus est glorifié.
Glorifié.
Jésus est glorifié.
Glorifié.
Jésus est glorifié.
Louons
le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Oui, louons le
Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Oui, Seigneur, tu es vivant, c'est pourquoi nous te louons ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Père. Dieu, il a mis un rêve dans notre cœur. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vit en nous et nous avons la vie éternelle. C'est un rêve. Quand nous serons avec Dieu dans cette vie, nous allons nous réjouir. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Oh, oh, oh. Oh, oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sers
de tous en rêve, que ce rêve ne vienne pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère,
persévère.
Encourageons-nous, persévérons,
persévère.
Car Jésus est bon,
persévère,
persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh, oh, parada. Ah, si dans ton cœur, si dans Dieu a mis, est réelle cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Mon frère, ma soeur n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, oui, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère. Oui, persévère, mon frère. Persévère. Oh oui, persévère, ma soeur. Persévère, persévère, encore une fois, persévère, persévère. Même si les choses sont difficiles, persévère. Reste accroché au Seigneur, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. C'est éternellement. Oh oui. Elle s'accomplira, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous tous les jours. Merci parce que tu nous encourages. Dans les moments de joie, tu t'es réjoui avec nous. Dans les moments de souffrance, Seigneur, tu nous consoles. Quand nous ne comprenons rien, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous enseignes. Tu nous encourages, tu nous exhortes à demeurer en toi. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Cette paix que tu ne donnes pas comme le monde donne, Seigneur. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous voulons une fois de plus te louer, Seigneur. Nous voulons nous émerveiller. Seigneur, on est émerveillé en ta présence, Père. Gloire à toi. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me rempli d'espérance, émerveillé,
émerveillé en ta présence.
Rien n'est impossible,
rien ne t'est impossible.
Émerveillé,
émerveillé en ta présence.
Oui,
ta joie me remplit d'espérance.
Il n'y a personne comme toi,
Jésus. Personne n'est comme toi
sur toute la terre,
sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
Oui,
tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Tu
fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Émerveillé
en ta présence.
Rien
ne t'est impossible.
Oh,
émerveillé en ta présence.
Oh oui,
ta joie me remplit d'espérance.
Il n'y a personne comme toi,
Jésus,
Jésus.
Personne n'est comme toi
sur toute la terre,
sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi,
Jésus.
Personne n'est comme toi.
Seigneur, tu mérites l'adoration de nos cœurs. On veut se tenir encore devant toi ce matin, Jésus, reconnaissant de ce que tu as accompli pour nous. Merci, c'est vrai, pour ton sacrifice à la croix, mais merci pour ta puissance de vie. Merci pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous dirige, Seigneur. Et nous voulons encore te célébrer ce matin. On vient de le chanter, il est puissant, il est glorieux ton nom, mais désire que ce soit vraiment une réalité pour chacun, Père. On veut reconsidérer encore ce matin ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci Jésus pour la vie et la vie que tu communiques avec abondance. Merci parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Tu es celui qui ne nous lâche pas la main, Père. On veut te célébrer encore ce matin, Jésus. Parce que sans toi, nous étions perdus. Mais dans ton amour, tu nous as tout donné, éternel. Est-ce qu'on veut élever la voix simplement ce matin en église? Offrir une louange collective à celui qui a tout donné pour nous. Qu'on puisse reconsidérer ce matin que le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Il est puissant pour sauver encore aujourd'hui. Il est puissant pour faire la différence dans nos vies encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, on est reconnaissant pour ton amour, nous qui ne méritions rien. Seigneur, on ne peut pas t'afficher de CV. Notre CV devant toi, il est nul. Mais Seigneur, notre CV, il est rempli de ton nom Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous ouvre le chemin du Père encore ce matin. Et on veut bénir ton saint nom, Père éternel. Glorieux est ton nom, Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant encore un petit peu? Est-ce qu'on peut continuer de le louer pour qui il est?
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, et puissant est ton nom. Alléluia, 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 et puissant est ton nom.
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 Puissant est ton nom,
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 puissant est ton nom.
1 Corinthiens 11, 23, 28 nous dit: car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Ce passage nous montre combien le souvenir du sacrifice de Jésus au travers de la scène et des éléments est bien plus qu'un acte religieux, égoïste, mais un acte relationnel, altruiste. Dans le contexte, Paul va reprocher aux Corinthiens la négligence des plus démunis au milieu d'eux au moment du repas. Ils se dépêchaient de manger, laissant les plus pauvres sans rien. Ils ont transformé ce moment de communion, de rassemblement, un moment pour servir les autres, dans un temps pour se servir et se gaver eux-mêmes. Ce passage, je crois que c'est un rappel ce matin à servir le corps. Dans quelques instants, il y aura une occasion qui vous sera donnée de le faire concrètement lors des annonces, pour servir les plus démunis de notre communauté. Mais en attendant, je crois que ce temps est un temps pour réfléchir, de prendre le temps en considérant la famille en Christ que nous avons autour de nous. Est-ce que vous pouvez regarder vos voisins ce matin? Alors peut-être il y en a qu'on est content de les voir, il y en a peut-être c'est un peu plus difficile. Mais j'aimerais vous rappeler ceci: même celui avec ou celle avec qui c'est le plus difficile, Jésus a donné sa vie pour qu'elle soit sauvée. Il nous invite à considérer le corps, pas à négliger le corps, mais à considérer le corps. Je crois que ce matin, c'est encore un temps, alors qu'on prend la Sainte Cène, où on est invité à réfléchir, pas à se priver du repas, mais à travailler dans notre être intérieur, à réfléchir, pour peut-être vivre le pardon, vivre la réconciliation, vivre des relations rétablies encore possibles dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Parce que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit en nous. Et le Saint-Esprit vient nous pousser parfois et nous exciter au pardon, aux relations restaurées, à faire le pas. C'est vraiment dans cet état d'esprit ce matin qu'on veut prendre la Sainte-Seine, bien plus qu'un acte religieux, mais un acte de communion les uns avec les autres, où on considère celui ou celle qui est à côté de nous et pour qui Jésus a donné sa vie. Amen. Amen.
Oh.
est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Encore une fois, combien
Dieu est grand. Chantons-le. Tous verront combien Dieu est grand.
C'est vrai, on peut l'applaudir, il est grand, et on a l'occasion en tant que disciple de Jésus de faire l'expérience de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et notre frère Yves Humilier va nous partager une expérience qu'ils ont pu faire pendant les vacances. Ouais, c'est pas réservé à une élite, mais la puissance de Dieu, elle est accessible et on peut la vivre et la voir en tant que disciple de Jésus. On va écouter un court témoignage de Yves de ce qu'ils ont pu vivre avec son épouse Anne-Déborah pendant les vacances.
Bonjour à tous. On s'est sans doute conduit à partager ce qu'on a vécu pendant les vacances suite à ce qu'a dit Raymond Pierre et puis combien Dieu est grand, ça va encourager toute la communauté. On était en vacances en Italie, on avait loué un agro-tourismo sur les hauteurs de la Toscane. Et pendant notre séjour, même avant notre séjour, on avait prié, mais Seigneur, on est disponible, on est en vacances, mais on a envie de faire des rencontres, on a envie d'être des témoins, on est tous des ambassadeurs où nous sommes de Christ, on a Christ en nous. Et au cours de notre séjour, un matin, on s'est réveillé et on a entendu un hélicoptère autour des logements où on était. Et puis, bon, on n'a pas fait attention, il tournait depuis 5 minutes. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais à l'armée. J'étais gendarme dans les banlieues de Marseille. Et il y a eu beaucoup d'incendies, et ça va très, très vite. Si vous avez du vent, les incendies peuvent aller très vite. Et il n'y avait qu'une route unique pour venir. Donc, j'ai commencé à me dire, oh là, il y a peut-être un incendie avec la canicule. On va regarder ce qui se passe. Je ne voyais pas de fumée. On est allé se renseigner à la réception. Et à la réception, ils nous ont dit, bon, mais voilà, il y a une personne qui a eu un arrêt cardiaque et l'ambulance est venue. Il y avait donc l'hélicoptère de service de Sienne qui était venu et on s'est senti poussé à prier pour cette personne. On savait pas quel âge ni d'où elle venait. On s'est senti à prier pour cette personne, mais à le témoigner aussi. C'est-à-dire qu'on est à la réception. À la réception, on lui a dit, écoutez, nous sommes chrétiens. Pas des religieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment la foi, on porte Jésus en nous, la puissance de Dieu, elle agit, et Dieu nous aime, et on croit que Dieu peut encore intervenir dans cette situation. Et la femme, elle nous a regardé un peu avec des yeux, comme si on est d'une autre planète, mais voilà, on est des témoins, on est des ambassadeurs, et on a prié pour cette personne. Le lendemain, on est revenu, on a dit, écoutez, la personne, elle est toujours en vie, elle a fait un arrêt cardiaque pendant plus de 40 minutes, et ce qu'on nous a dit, puisque son mari était médecin, c'est 40 minutes, vous n'avez que 10% de chances de survivre, et encore avec des séquelles. Et malgré tout, on a dit, on va continuer à prier, le lendemain est instable, 2 jours après, je vais vite, parce qu'il y a encore un message derrière, 2 jours après, commencer à remuer les doigts. En fait, il s'agissait d'une personne qui avait 46 ans, une femme, donc pas très âgée, qui avec la chaleur et tout ce qui s'est passé a fait un arrêt cardiaque. Son mari était médecin urgentiste, donc il a prodigué les premiers soins. Mais voilà, sans beaucoup de avec beaucoup d'espérance, mais sans beaucoup de... Et nous, on était là derrière, on a prié, on a fait connaître à cette personne qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour lui. 2 jours après, elle a commencé à retrouver l'usage de la parole. 4 jours après, elle plaisantait avec son mari. Elle avait juste un problème cognitif au niveau des 2 dernières semaines, elle ne se souvenait plus de rien. Et quand on a quitté donc l'Italie, et ben, ils étaient prêts à se retrouver. Et on a retrouvé le monsieur, donc c'était un Allemand, on a pu partager notre foi, que ce n'était pas une religion, mais que c'était... On vit, Dieu vit en nous, et il veut se manifester au monde, par toutes sortes de manières. Et on s'est rendu compte que non seulement nous, on a été les premiers, peut-être pas les premiers directement bénéficiaires, mais on a vu la grandeur de Dieu. Ce qu'on lit dans la Bible, c'est encore actif aujourd'hui, c'est encore possible, et on peut nous l'activer par notre foi, par notre amour, notre compassion. Les gens ont été touchés, les gens à l'accueil, les 2 personnes disent « mais revenez en Italie quand vous voulez, c'est incroyable, on n'a jamais vu des gens comme ça ». Le mari était reconnaissant, et il nous a expliqué qu'il y avait des problèmes avec religion, parce que là d'où il venait, il y avait eu voilà, des abus, la corruption, etc. Mais il a été touché par l'amour, on a prié ensemble, et on a quitté l'Italie avec vraiment ce témoignage de puissance, Il nous a dit lui-même, c'est un miracle. Il est médecin urgentiste, il dit qu'il n'y a que 10% de chances qu'elle s'en sorte, et encore avec des séquelles, et apparemment elle n'a quasiment aucune séquelle, et puis elle va pouvoir retrouver ses enfants. Donc gloire à Dieu.
Amen, voilà pourquoi c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que notre Dieu souverain, parfois, peut nous conduire dans des circonstances pour permettre à la vie de jaillir et à des gens de rencontrer qu'il y a un Dieu vivant sur terre. Amen. Une occasion de participer à ce qu'on disait tout à l'heure dans la Sainte-Seine, de bénir, d'encourager, c'est que aujourd'hui c'est l'épicollecte. Vous savez que notre église participe à aider les plus démunis dans des colis alimentaires, etc. Vous avez l'occasion de pouvoir déposer des denrées au stand là-bas. Alors, si vous avez oublié, c'est pas grave. Vous pouvez aller au stand vie d'église, à l'espace vie d'église, et il y a un petit flyer avec toutes les dates qui sont importantes par rapport à l'épicollecte où vous pourrez prendre les infos. De la même manière, pour qu'on puisse poursuivre cette mission de nous soucier de l'autre, on a besoin de donateurs. On vous l'avait dit, il y avait une communication qui avait été faite, on recherche 100 donateurs prêts à donner 20 euros par mois pour permettre à l'association Enjeu et son volet colis alimentaire de pouvoir permettre à des hommes et des femmes d'accéder à des colis. Actuellement, c'est plus de 200 personnes qui sont bénéficiaires de nos colis alimentaires. Donc, si votre cœur est touché et que vous avez envie de faire une différence, avec 20 euros, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'équipe qui se tiendra sur le stand Epicollect, qui pourront vous donner toutes les infos. Vous pouvez devenir membre aussi de l'association Enjeu. Donc, c'est possible. Allez voir Didier, Sandrine, ils vont se tenir là-bas à la fin de la célébration. Profitez-en, ils sont là. Si vous voulez faire une différence, c'est possible. Une bonne nouvelle aussi. Alors, on a déjà quelques candidats, et je crois qu'il y a déjà 5 candidats avant même que les annonces soient faites, mais un nouveau service de baptême va prendre place l'année prochaine, et les cours de baptême vont redémarrer le mercredi 10 septembre dans nos sous-sols, en salle art plastique. Si vous êtes interpellé par cette question du baptême, de vouloir vous engager avec Jésus, n'hésitez pas à la fin de cette célébration d'aller à l'espace vie d'église, laissez vos coordonnées, on prendra un contact avec vous pour un échange pastoral, pour voir qu'est-ce qui bouillonne dans vos vies, qu'est-ce qui est en train de se passer, et pouvoir vous présenter un petit peu toute la formation et comment à l'épi on décide d'accompagner les gens dans ce parcours où il y a de la joie dans le ciel quand il y a un pécheur qui se repent. Yes. Donc c'est super important, si vous réfléchissez à ça depuis quelques temps, c'est peut-être le jour aujourd'hui de faire ce pas, d'aller juste laisser vos coordonnées, et puis on pourra prendre un temps d'échange dans les jours et les semaines qui arrivent pour voir ce qui se passe un petit peu dans vos cœurs. Dernière annonce avant de laisser la place à notre orateur du jour. Nous aurons le samedi 4 octobre une grande célébration 2025. C'est organisé par le Conseil national des évangéliques de France qui regroupe près de 70% des évangéliques en France. Michel, si je me trompe dans les chiffres, c'est bon, 70, c'est ça. Et donc, il y a un grand événement national et qui va prendre place aussi pour nous localement avec le CNEF 67. Donc, il y aura plus de 60 cultes en commun dans toute la France, et nous aurons le privilège ici en Alsace d'en avoir 5. Et à Strasbourg, ça aura lieu le samedi 4 octobre. Donc, c'est l'occasion pour l'entente de se réunir ensemble, d'ouvrir ses portes et de marquer les 500 ans de présence du monde évangélique ici à Strasbourg. Donc c'est un culte en commun, il y aura un accueil pour tous, adapté aussi en fonction de l'âge pour les enfants. Il y aura des contacts de rue, il y aura une soirée de louanges, il y aura des food trucks, on pourra manger. Bref, ça va être la fête pendant cette journée. Donc n'hésitez pas à bloquer cette date. Et on vous rappelle qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de célébration ici le dimanche 5 octobre. On se concentre pour vivre ça tous ensemble avec tous les évangéliques. Ça sera le samedi 4 octobre 2025. J'en ai fini pour les annonces. Je vais inviter Stéphane Hillard, qui est français, mais expatrié depuis une petite vingtaine d'années au Canada, au Québec. Elle est là avec son épouse Alexia. On est heureux de vous avoir. Ça fait quelques jours, une petite dizaine de jours qu'ils sont en Alsace. Et ce matin, il va nous partager l'évangile. Stéphane a été longtemps engagé dans l'équipe de l'église Nouvelle Vie en tant que pasteur, notamment tout ce qui s'occupe des 0-25. Par ailleurs, il a développé un ministère aussi auprès de l'enfance pour aider nos églises locales partout en francophonie de se soucier de ceux qui sont déjà l'église d'aujourd'hui. Donc Stéphane, on veut t'accueillir. Et est-ce qu'on peut l'accueillir comme on sait le faire en Alsace? Et on applaudit Alexia aussi qui est là avec lui ce matin. Bienvenue Stéphane, que le Seigneur te bénisse dans ce qu'il a déposé pour l'église de l'Épi.
Merci.
Ça bénit.
Bonjour, ça va bien? Oui? Bon, très heureux d'être avec vous ce matin, même si je vous avoue que ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on est là avec mon épouse. On visite Strasbourg et c'est beau! C'est beau? Vous n'êtes pas sûr? J'ai pas dit qu'il faisait beau, j'ai dit que c'était beau, c'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est que cette pluie tous les jours? Qu'est-ce qui se... Il y en a qui m'ont fait comprendre ce matin, alors qu'on priait, de dire, tiens, c'est bizarre, il pleut depuis que t'es arrivé. Alors, je sais pas, j'espère que non. Mais on a eu quelques bribes de soleil, mais on aime notre séjour avec mon épouse ici. Et je suis heureux de revenir. Je viens quasiment quoi chaque année quasiment, et très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai porté une chemise de foie ce matin. Je me suis dit on va apporter l'été. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne prend pas place. Amen. Donc j'ai pris ma petite chemise de palmier et éventuellement il va faire beau dans les prochains jours, c'est sûr. C'est sûr, j'ai regardé Météo France, ça devrait être bon. Très heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole à l'église de l'Épi. J'aime cette église, j'aime l'équipe pastorale qui est ici. J'espère que vous aussi, vous les connaissez ? Ils sont sympas, on les aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui aiment prier ici ? Bon, dans une église, t'as pas trop le choix si on te pose cette question de dire « Oui, j'aime prier. » Est-ce qu'il y en a qui prient ? Oui ? Mais est-ce que des fois vous êtes comme moi, vous priez et vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose ? Est-ce que je suis le seul ici ? Oula, il va falloir faire une thématique là-dessus parce qu'il y a beaucoup... Oui. On prie et parfois on se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert que je prie ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que franchement ça change les choses ? On a même l'impression parfois qu'on prie, mais Dieu ne nous écoute pas. Dieu a d'autres choses à faire plus intéressantes que nous écouter. Parce que s'il nous écoutait, éventuellement, notre prière serait répondue. C'est ce qu'on se dit. En tout cas, moi, je me pose cette question-là. Je prie, puis j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Des fois, on a l'impression de prier dans le vide, de parler à un mur. Il semble que des fois, Dieu nous parle, et le Saint-Esprit nous parle, et il y a une parole claire, et des fois, pendant un bon bout de temps, on prie, on cherche à entendre la voix de Dieu, puis il semble qu'on n'a pas bien réglé le volume. Et des fois même, tu pries pour des sujets depuis des mois, voire des années, et la vérité, c'est que rien n'a changé. Le ciel semble fermé. Est-ce qu'il y en a qui prient pour des sujets ici depuis des mois, voire des années ? Ouais ? Bienvenue au club. Moi aussi. Et c'est un peu, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes ? Seigneur, est-ce que tu m'entends ? Il y a quelqu'un ? Écho ? Quoi ? Il y a un peu ce sentiment-là. Alors je sais qu'il y en a, vous êtes déçus, vous m'écoutez, vous dites « Oh, quel homme peu spirituel qu'on écoute en ce moment. » Mais à quoi ça sert que je prie ? Et c'est frustrant, c'est décourageant, et si on est honnête, ça ne donne pas envie de continuer parfois. Le titre de mon message ce matin, quand le ciel semble fermé, un peu comme la météo à Strasbourg ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la vignette, l'image qui a été mise sur YouTube, mais je me suis dit « Ah tiens, c'est exactement le temps qu'il y a à Strasbourg en ce moment. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris les grêlons qu'il y a eu il y a 2 jours. On était à ça. Toujours écoutez vos femmes, messieurs. Ma femme m'a dit, est-ce qu'on visite ou est-ce qu'on rentre ? J'ai dit, j'ai regardé, je fais, ok, on va rentrer parce que je sentais qu'elle avait envie de rentrer. On est rentré dans le tram. Les grêlons sont tombés. Merci, mon amour, je t'aime. La prière me rend confus. Des fois, il semble que j'ai des sujets de prière pas très urgents. Je prie et poum, Dieu répond d'un coup. Ça vous arrive ? C'est peu urgent, mais Dieu répond d'un coup, vous faites « Waouh, la prière, c'est bon, oh, alléluia !» Et des fois, je prie pour des sujets vraiment très urgents. « Seigneur, ça serait bien que tu répondes hier !» Et il semble que Dieu prenne tout son temps pour répondre. Je suis le seul ? Non, Seigneur, alors ce sujet n'était pas très urgent, c'était pas obligé, mais lui, il était un peu plus urgent, si tu pouvais plus t'occuper de lui. Non, pas lui, Seigneur, juste lui. Des fois, je me sens comme ça avec Dieu. J'ai des sujets pas très urgents, il répond, j'ai des sujets urgents, puis il prend tout son temps. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 16 ans, il y a plus de 20 ans. Ça fait 15 ans que je suis pasteur, et si je suis honnête avec vous, je me suis parfois demandé à quoi ça servait de prier tous les jours, de faire un peu les mêmes prières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, quand on prie, on commence nos temps de prière de la même façon. On a un petit peu nos rituels. Et il n'y a rien de mal à ça. Et des fois, je me reprends à dire, ok, on va recommencer. Il y en a, c'est « Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. » Vous me suivez ? Moi, j'ai ma classique, c'est « Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce que tu fais. » C'est mes deux phrases que je prends. C'est bien, je suis dans la reconnaissance. Et des fois, on a un peu des prières comme ça qu'on répète souvent et on peut se demander à quoi ça sert de prier encore et encore. Et j'ai remarqué en fait que quand je priais, ça ne changeait pas grand-chose dans ma vie. Parfois, dans mes questionnements internes, je me demandais franchement à quoi ça sert que je prie. Je continue à prier, on me dit de prier tous les jours, je prie, Mais voici ce qui change. J'ai remarqué que les choses et ma vie commençaient à changer lorsque j'arrêtais de prier. Et peut-être qu'il y en a qui me suivent. J'ai remarqué que les choses et ma vie commençaient à changer lorsque j'arrêtais de prier. En fait, quand ma vie de prière est sèche, que je manque d'assiduité, de constance, de discipline, ma vie change. Je change. Je suis plus facilement énervé, frustré, et vous finissez par mon sourire. Mes motifs changent. Qui je suis change. En fait, j'ai remarqué que je perdais ma joie quand j'arrêtais de prier. En fait, quand tu pries tous les jours, tu es tellement dans un mode où tu es en relation avec Dieu, tu pries, et Dieu en fait agit dans ta vie. Mais c'est tellement ta normalité que tu ne réalises plus que Dieu est là. Est-ce que vous me suivez? Et en fait, c'est quand j'arrête de prier que ma vie de prière commence à devenir un peu plus sèche. Oui, parce qu'il y a des fois, il y a des jours où je ne prie pas, je sais, il y en a, vous êtes déçus. Ça m'arrive. Et c'est quand je perds un peu ma relation avec Dieu que ma vie change, ma vie se transforme et je me rends compte que, oh waouh, non, en fait, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier, c'est vital, ça me fait du bien. Quelqu'un disait, j'ai besoin de prier, pas parce que je suis spirituel, mais justement parce que je ne suis pas spirituel. J'ai besoin de prier. On a besoin de prier. Alors, quelques points à saisir sur la prière ce matin. La prière n'est pas magique. Ce n'est pas une machine à sous où on croise les doigts pour que les trois bananes apparaissent et qu'on gagne le jackpot. Il y en a qui servent de la prière comme ça, on tire comme ça, hop. Est-ce qu'on a les trois cerises? Oui, non, peut-être. Ah, on était à une banane d'avoir les trois bananes. Non, ce n'est pas ça. Deuxième chose, si Dieu semble ne pas répondre, ce n'est pas forcément parce que tu n'es pas spirituel. Il y a des gens qui vont venir te voir et qui vont venir et te dire « T'as prié pour ça? Oui. Et alors ?» Ah, peut-être que tu n'es pas assez spirituel, c'est pour ça que Dieu ne répond pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Troisième chose, il y a une différence entre réponse et exaucement. Est-ce que ça se pourrait que Dieu t'ait répondu et qu'il ait dit non? On demande des choses à Dieu. Tout comme certains qui ont des enfants, vos enfants vous demandent des choses. Est-ce que vous leur répondez oui? Et vous dites quoi? Non! Voilà, c'est non, je lui dis non. Mais Dieu nous dit pareil aussi. Dieu nous a répondu et Dieu nous a dit non, ce n'est pas pour toi. Mais parfois, il semble aussi que la prière ne fonctionne pas. Le ciel semble fermé, même pas l'ombre d'un changement. Et même parfois, ça empire. Et tu dis, je pense que je vais arrêter de prier parce qu'il me semble que plus je prie, plus ça empire. Alors ce matin, j'aimerais voir ensemble pourquoi parfois rien ne change lorsqu'on prie et que le ciel semble fermé. On va voir trois mauvaises raisons qui dépendent de nous et trois bonnes raisons qui dépendent de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Ok. Première raison, mauvaise raison que nous, on peut changer d'ailleurs. Tu es peut-être l'obstacle à l'accomplissement. Et Dieu te dit, sors du chemin, s'il te plaît. Ça arrive souvent dans les relations. Seigneur, je te prie pour ma famille. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur. Tu vois à quel point elle est loin de toi. À quel point elle est dans le péché. Mais la première chose qu'on fait quand on les voit, c'est on leur met leur péché devant eux. Et tu crois que c'est ça qui va changer leur vie? Les gens autour de nous, nos familles, nos amis, n'ont pas besoin de culpabilité. Ils ont besoin d'amour. Et Dieu te dit, sors du chemin. Et tu pries sincèrement pour eux, mais c'est plus fort que toi. Tu peux juste les juger, tu les juges, puis tu mets le doigt d'accusation sur eux. Et dire, ah, voici le frère qui a péché, bonjour frère. Est-ce que vous me suivez? Nous-mêmes, parfois, on est ce qui contraint l'accomplissement de nos prières à Dieu. On est dans le chemin. Et ça, on est bon pour le faire, surtout avec nos enfants. Oui, mais il faut lui dire la vérité quand même. Vous imaginez si Jésus agissait comme ça avec nous? Si la première fois qu'il nous avait rencontrés, il avait juste mis la vérité devant nous, est-ce qu'on serait venu à lui? Non, on est venu à lui pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Oh Seigneur, fais un miracle avec mes finances, tu vois que c'est difficile. Mais oh tiens, il y a les soldes ce week-end. Oh, il y a les Prime Days du 8 au 11 juillet. Vous connaissez la date, hein? Vous aussi, vous l'avez vu. J'étais pasteur jeunesse pendant plusieurs années, puis j'aimais ça, j'avais un jeune qui était incapable de donner à Dieu, c'était compliqué sa situation financière, parce qu'il fallait qu'il s'achète des jeans à 300 euros. Des fois, on prie, mais on est nous-mêmes dans le milieu du chemin pour l'accomplissement de Dieu. « Oh Seigneur, je te prie pour mon couple, mais je fais aucun effort. » Et je remets toujours la faute sur l'autre. Et Dieu te dit « Sors du chemin, s'il te plaît. » Sors du chemin. Que ce soit pour nos familles, pour nos couples, pour nos finances, souvent, parfois, c'est nous qui sommes l'obstacle à l'accomplissement de Dieu. Peut-être Dieu te parle en ce moment et te dit, sors du chemin s'il te plaît, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Et ça, on peut y remédier, on a juste à sortir du chemin. Deuxième chose, Dieu n'exauce pas ce qui n'est pas aligné à sa volonté. Est-ce que ta prière est alignée à la volonté de Dieu ? Oh, je prie pour ça, mais il me semble que Dieu ne répond pas pourquoi. Mais oui, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui viennent à l'église, et souvent qui viennent voir les pasteurs, qui disent « Ah, pasteur, pour ça, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'exauce pas. » Et nous, pasteurs, des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit « Mais lis la Bible, si tu avais lu la Bible, on se serait évité une rencontre aujourd'hui. » Même si ça me fait plaisir de te voir. Parce qu'on n'est pas aligné à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut faire. Je comprends pas, j'ai joué à l'euro million et j'ai pas gagné. Pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié RP. Est-ce que vous me suivez ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Jacques 4:3 nous dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Alors, je prie pour me marier, mais il n'y a aucun gars qui s'intéresse à moi au travail. Et là, dans ce genre de situation, tu ne le sais pas, mais en n'exauçant pas ta prière, Dieu te protège. Dieu te protège, puis on va le voir plus tard. Dieu sait tout, c'est un Père aimant, et il sait ce qui est meilleur pour nous. Oh, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ce sera meilleur. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ce sera meilleur. Est-ce que tu veux laisser Dieu agir dans ta vie ? Et c'est pour ça que tu as besoin de lire sa parole. Tu as besoin de la connaître, pour connaître sa volonté. Parce que si tu connais sa volonté, tu vas gagner du temps, non seulement dans ta vie, mais dans ta vie de prière. Il y a des choses pour lesquelles tu pries et Dieu te dit, mais non, je ne le ferai pas, je ne l'exaucerai pas. Je ne peux pas faire ça. C'est contre ma volonté. Est-ce que tu connais la parole ? Est-ce que tu lis la Bible ? Est-ce que tu lis les promesses qu'il a pour toi ? On va gagner du temps. Troisième chose, peut-être tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardon. Il écrit dans Jacques 5:16, la prière du juste a une grande efficacité. Et on aime cette phrase. Qui connaît cette phrase-là ? La prière du juste a une grande efficacité. Et souvent, on la déclare dans nos prières. On aime ça, déclarer. C'est très tendance de déclarer les choses. Je déclare la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia ! Mais tu peux déclarer tout ce que tu veux. Si tu n'es pas aligné à la volonté de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui arrive en tant que chrétien, c'est que nous, on aime bien ça. On aime les punchlines. Et on la sort de son contexte. Pourquoi ? Parce que le contexte est important. Il faut lire la phrase d'avant qui est dans le même verset. Jacques 5:16. Confessez vos péchés les uns. Oh, c'est quoi ce truc-là ? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Oh ! Tu peux déclarer la parole de Dieu, mais connais-la. Parce que juste avant, c'est confessez vos péchés les uns aux autres. Est-ce que tu as besoin de confesser ton péché à quelqu'un ? Est-ce que tu as besoin de confesser ton péché à Dieu ? Est-ce que ça se pourrait que ta prière ne soit pas efficace parce qu'il y a du péché dans ta vie ? Un péché que tu ne remets pas à Dieu et dont tu ne te détournes pas ? Et que tu fais « Oh, il est là, il est en arrière. » C'est correct, je le maîtrise, ça va. Je te donne tout, Seigneur, mais ça, non, ça, je... Et je n'ai pas besoin d'énumérer c'est quoi les différents péchés qu'il peut y avoir. Tu le sais parce que Dieu est en train de te parler en ce moment. Cette chose que tu mets dans l'ombre puis que tu n'amènes pas la lumière et Dieu te dit « Ramène-le. » Puis quand je parle de ça ce matin, le but, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de mettre un poids et te montrer du doigt, pas du tout. C'est de dire justement qu'il y a une grâce qui est là. Il y a une grâce, parce que Dieu veut nous justifier. Et Dieu dit, arrête, sors ça de l'ombre, amène-le devant moi. Parce que je veux te pardonner. Parce que je veux pouvoir faire une œuvre avec toi. L'idée n'est pas d'être dans le mérite ou la culpabilité, mais dans la grâce ce matin. Et parfois, c'est le manque de pardon aux autres qui ferme le ciel. Il y en a, tu vois bien. Bonjour, pasteur Mathieu, ça va bien ? Ah oui, gloire à Jésus, ça va. Personne ne le sait, ce n'est pas écrit sur ton visage, mais toi, tu le sais, c'est ici. Puis il y a des personnes que tu ne pardonnes pas, des gens qui t'ont fait du mal. Ou peut-être tu me dirais, ah, Stéphane, si tu savais. Non, c'est vrai, je ne sais pas, mais lui sait. Et peut-être qu'il y a des personnes que tu dois pardonner. Et des fois, c'est ce qui ferme le ciel aussi en prière. Le manque de pardon aux autres. Maintenant, trois raisons qui dépendent de Dieu et aussi un peu de nous. Trois bonnes raisons. La première raison, il faut persévérer. C'est quoi qu'on a chanté ce matin ? Persévère. Puis on a persévéré en disant persévère. Persévère. Il faut persévérer. En bon québécois, lâche pas. Lâche pas. On vit dans une génération où on veut tout tout de suite. On n'aime pas attendre. Ça prend trop de temps. Tout prend trop de temps. Mais les bonnes choses prennent du temps, comme le vin, comme affiner un fromage, comme les investissements, comme les relations, l'amitié et l'amour. Ces relations-là prennent du temps. Si je vous demande avec qui êtes-vous les meilleurs amis, c'est sûrement les personnes avec qui vous avez passé le plus de temps. C'est rare que vous allez me dire c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 3 semaines. C'est pas vrai. Les bonnes choses prennent du temps. On ne veut pas attendre. On s'est converti à la religion de l'instantanéité de suite maintenant. Cette société un peu micro-ondes où tout s'obtient rapidement. Même quand on est devant le micro-ondes et que ça prend juste 30 secondes pour réchauffer un plat, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le micro-ondes avant pour ne pas entendre les 3 bips du micro-ondes. Eh oui. On veut ce que j'appelle les prières Amazon Prime. Répondu et livré en moins de 48 heures. Et presque, on est tenté de dire, écoute, Seigneur, t'es bon dans ce que tu fais, mais je pense que je vais faire passer de la religion Amazon Prime. En plus, ils ont des dîmes et des offrandes à 10 euros par mois. Livré en moins de 48 heures. C'est ça qu'on veut. Parce que Dieu n'est pas assez rapide, selon nous. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et l'attente fait partie du processus. Fais confiance au processus de ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu lui fais confiance? J'aime cette phrase qui dit parce que la patience, ce n'est pas attendre que Dieu agisse, c'est attendre pendant que Dieu agit. Dieu n'est pas en train de se croiser les bras pendant que tu pries et se dire « Ah, tout à coup, je vais agir. » Non, Dieu agit pendant que tu pries. Dieu agit de l'autre côté pendant que tu pries. Tes prières activent le bras de Dieu. Alors continue, ne lâche pas, persévère. Et il y en a, tu as besoin d'entendre encore, persévère. Persévère, Père, sévère. Persévère. La vérité, c'est que la prière est davantage pour nous que pour Dieu. Nous, on a besoin d'apprendre à lutter dans la prière, à ne pas abandonner, à avoir assez d'estime pour Dieu pour être persuadé qu'il ne nous laissera pas tomber. Parce que des fois, on doute, moi le premier. J'ai entendu des gens dire que si on demande plus d'une fois quelque chose à Dieu, c'est de l'incrédulité. Vous avez déjà entendu ça? Ah, si tu as prié plusieurs fois, c'est que tu ne crois pas vraiment que Dieu va agir. Vous avez déjà entendu ça? Et c'est souvent chez des personnes pseudo-spirituelles, qui se disent très spirituelles. Ah, si tu as prié une fois, fais-lui confiance. Mais je crois que ces personnes n'ont pas lu la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même qui en parle. Jésus nous parle du juge unique dans Luc 18. Il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Trouvera-t-il encore la foi des gens qui vont persévérer, qui ne vont pas lâcher? Que même si ma prière n'est pas répondue de suite, je suis encore là, je me tiens à genoux et je prie mon Dieu. Amen. Persévère, on a besoin de persévérer. En fait, je trouve que la foi, c'est justement persévérer. On persévère alors qu'on n'a pas de réponse. Ça, c'est la foi. L'espérance de ce qu'on ne voit pas encore. D.L. Moody, un prédicateur itinérant de la fin du XIXe siècle, était l'un des évangélistes les plus influents de l'ère de l'Église moderne. Et toute sa stratégie pour amener les gens à Christ, c'était la prière. C'est sa stratégie. Combien sont d'accord avec cette stratégie? C'est pas mal, ça a fait ses preuves. Beaucoup ne lèvent pas la main, je pense qu'il va vraiment faire une thématique sur la prière ici. mais c'est la prière. Et dans une anecdote qui est souvent racontée, il est dit que Moody avait dans sa poche une liste de 100 noms de gens qu'il connaissait. Il y en a, vous vous dites, je ne connais même pas 100 personnes, à part les 3000 contacts que j'ai sur Facebook et Insta. Il avait une liste de 100 noms pour lesquels il priait chaque jour. Des gens qu'il connaissait, mais qui, eux, ne connaissaient pas Dieu. Et il priait. Et en fait, son acte d'amour pour eux, c'était de prier, de dire leur nom à Dieu et de prier pour leur salut à chaque jour. Il est dit qu'à la fin de sa vie, 96 des 100 noms qui étaient écrits sur cette liste ont fini par donner leur vie à Jésus. C'est pas mal, 96% de taux de réussite. Franchement, moi je suis prêt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il dit que lors de ses funérailles, les 4 derniers noms qui figuraient sur cette liste étaient là, lors des funérailles de Moody. Et que lors des funérailles, ils ont tellement été touchés par le message et la vie de Moody qu'eux-mêmes ont fini par donner leur vie à Jésus. Alors c'est une anecdote. Qu'est-ce qui fait partie du folklore? Qu'est-ce qui fait partie de la vérité? Puis le point de cette anecdote n'est pas de nous mettre la pression et de dire « Waouh, 100%, écoute déjà, moi si je pouvais être au moins juste la seule personne pour qui je prie. » L'idée de cette anecdote n'est pas de nous faire culpabiliser, de nous dire qu'on n'est pas spirituel, pas du tout. L'idée c'est de persévérer, de ne pas lâcher. Parce qu'il a prié tous les jours de sa vie, il a prié pour eux. Est-ce que nous on prie pour eux? Et si moi je suis honnête avec vous, il y a des gens pour qui je prie que j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté. Et peut-être que Dieu t'appelle à recommencer, peut-être que Dieu m'appelle à recommencer à prier pour certaines personnes. Qui sont ces personnes pour qui tu pries? Dieu te dit, ne lâche pas, persévère, continue. On a besoin de prier. Alors comment un vendeur de chaussures n'ayant pas fait d'études secondaires est devenu l'un des évangélistes les plus influents de son temps? Par la prière. Par la prière. L'influence, elle n'est pas spécialement sur le stage, sur l'estrade ici, mais elle est dans le lieu secret. Il y en a, vous avez une influence, vous n'imaginez pas à quel point. Et il y en a, vous pouvez avoir une influence que vous n'imaginez pas. Si seulement vous vous mettez à prier, vous continuez à prier pour les gens de votre famille, pour les gens de votre travail, pour les gens de votre communauté, pour les gens de votre voisinage. Prions comme Moody. Persévérer, on a besoin de persévérer. Même si on n'a pas la réponse de suite, de continuer, de ne pas lâcher. Moi, un des passages que j'aime le plus, c'est dans Daniel. Vous connaissez Daniel? Daniel qui priait, et finalement, il a une réponse dans Daniel 10, versets 10 à 14. Alors qu'il a une vision, Daniel dit « Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il poursuivit « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Je pourrais faire tout un message là-dessus. On pourrait faire, je pense, toute une série sur ce passage-là. Je ne le ferai pas et je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais trois choses à retenir de ce texte. Premièrement, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Amen. J'aime ça, il y a des amens ici. Deuxièmement, ta prière est entendue. Ta prière est entendue. Même quand tu crois que tu pries dans le vide, non, ta prière est entendue. Dieu est là, il entend. Et parfois, nos prières, ce n'est pas des mots. Des fois, nos prières, c'est des larmes. Et Dieu les voit aussi. Dieu les connaît. Dieu connaît chacune de nos larmes. Et troisièmement, il y a un combat spirituel. Il faut lutter et se battre. Ce qui demande de persévérer, de s'accrocher. Il y a un combat spirituel. Et peut-être ça prend du temps parce qu'il y a un vrai combat. Et il faut lutter, il faut batailler. Il faut frapper, frapper, frapper à la porte. Il y a un combat. Et on a besoin de persévérer pour ça. Il y a quelques jours, on allait voir avec mon épouse, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici le MM Park. Non, il n'y a personne qui le connaît apparemment à Strasbourg. Ah, merci, ok, je vois quelques mains qui se lèvent. Et c'est un... c'est beau, les gars. Vous êtes allés en sortie scolaire? Avec ton père? Il est bien ton père, quand même. Le MM Park. Et en fait, c'est un musée sur la Seconde Guerre mondiale où il y a des centaines d'uniformes, des tanks, des bateaux. C'est hallucinant. C'est assez fou. Moi, j'aime bien tout ce qui est histoire. Ma femme aussi, qui étudie en histoire. Et tout ce qui est de Deuxième Guerre mondiale est assez fascinant. Et il y a quelques temps, j'ai regardé un reportage sur Netflix qui s'appelait, je pense, Churchill à la guerre. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et tout ça est hyper fascinant. Et j'aime beaucoup le personnage de Churchill parce que, alors qu'on parle de combat spirituel, il y avait un combat où Hitler, littéralement, prenait tous les pays d'Europe sans combattre. Et il y a un homme qui s'est levé et qui a dit, ben non, nous on va se lever puis on va se battre. On ne lâchera pas. C'est vrai que l'ennemi a l'air puissant, c'est vrai qu'on a peu de chance, mais on va se battre, on ne lâchera pas. Et dans son discours devant la Harrow School le 27 octobre 1941, voici ce qu'a dit Churchill. N'abandonnez jamais, jamais au grand jamais. N'abandonnez jamais en rien si ce n'est pour l'honneur et le bon sens, ne cédez jamais à la force, ne cédez jamais à l'apparente puissance de l'ennemi. Et j'aime ce morceau-là parce que je trouve que c'est pour nous les chrétiens. Parfois, l'ennemi a l'air très puissant. L'ennemi a l'air très puissant pour nous contrecarrer, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est juste apparence. C'est juste une apparence. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand que ça. Amen. On l'a chanté tout à l'heure. Combien Dieu est grand. Mais n'abandonnons pas. L'ennemi a l'air fort. Mais notre Dieu est bien plus fort. Alors, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, ce que tu seras amené à vivre, et les prières que tu devras combattre éventuellement. Mais si ton combat est juste et vaut la peine, bats-toi, ne lâche pas. Persévère, persévère pour ta famille, persévère pour tes enfants, persévère pour ton église. Persévère, ne lâche pas. Des fois, il y a des pensées chrétiennes toutes faites de « Oh, si Dieu n'a pas exaucé, c'est qu'il ne veut pas. » Tellement facile. On peut se créer une fausse théologie comme ça. Non, souvent, les choses qui valent la peine, les choses pour lesquelles il faut se battre, elles ne sont jamais gratuites. C'est jamais d'un seul coup. C'est rare en général. Alors n'abandonne pas. Ce matin, il y en a certains, Dieu te dit, ne lâche pas, n'abandonne pas, continue. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est peut-être que Dieu a un meilleur plan. Des fois, on prie pour des choses. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez prié pour quelque chose parce que vous vouliez quelque chose et c'était bon en soi. Il n'y avait pas de problème, aligné à la volonté de Dieu, tout ce qu'on veut. Mais ça ne s'est pas fait. Et avec le recul, tu dis, waouh, finalement, heureusement que Dieu ne l'a pas fait parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous encore. Est-ce qu'il y en a qui ça arrivé à des personnes ici? Ouais, moi ça m'est arrivé. Et sur le coup, tu ne comprends pas, tu es frustré. Mais Dieu a un meilleur plan. Dieu agit selon son calendrier parfait. Ce que nous percevons comme un retard peut être une préparation pour quelque chose de meilleur. Même si on ne voit pas de changement immédiat, Dieu travaille souvent dans les coulisses pour préparer un résultat plus grand. Dieu sait ce qu'il fait. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Fais confiance au résultat. Fais confiance à Dieu, à ce qu'il fait. Parfois même, Dieu n'exauce pas parce qu'il nous protège. J'aime cette idée que la bénédiction de Dieu, c'est parfois ce qu'il nous donne et c'est souvent ce qu'il nous évite. Je pense qu'un jour, quand on sera au ciel et qu'on verra tout ce que Dieu nous a évité sur notre chemin, on fera « Oh, wow. Wow. Ok, c'est pour ça que je priais tous les jours, tous les matins. Que je priais « Seigneur, bénis cette journée, sois avec moi. » Pour moi, j'aime voir Dieu et les anges comme le service secret divin qui évite et qui déjoue des attentats spirituels qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais qu'un jour, on verra, on dira « Wow. Seigneur, heureusement que tu étais là. Ouh, heureusement que j'ai prié cette journée-là. » Cette idée que la bénédiction, ce n'est pas forcément ce qu'il nous donne, c'est aussi souvent ce qu'il nous évite. Des promotions qui ne sont pas données, des personnes qui sortent de notre vie, et ça fait mal. Tu vois seulement ce que tu n'obtiens pas, mais pas ce que Dieu t'évite. Je pense qu'il faudrait remercier plus souvent le Seigneur pour « Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'as évité, mais merci. Merci. » Tu sais, quand tu tombes sur le feu orange, bon, il y en a quand tu vois le feu orange, toi t'accélères, mais tu sais, quand tu tombes sur le feu orange ou que tu arrives dans un embouteillage, tu es en retard et que juste après il y a un accident et tu te dis « Oh, ça aurait pu être moi, ça. » Quand tes enfants t'ont renversé un verre de lait juste avant de partir et que tu fais « Oh, toi. » Juste avant de partir, puis t'ont renversé ça. Est-ce que c'est la maladresse de l'enfant ou la main de Dieu? Peut-être les deux, qui sait. Jérémie 29, 11 nous dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Et parfois, Dieu n'exauce pas certaines prières parce que Dieu a un meilleur plan pour nous. Dieu a un meilleur plan pour nous. Que ce soit pour des relations, pour des amitiés, pour un couple. L'achat d'un appartement, d'une maison, je ne sais pas. Dieu a des meilleurs plans pour nous. Troisièmement, un dernier point ce matin. Peut-être que des fois, notre prière ne change pas grand-chose dans notre situation parce que ça se peut que le changement soit ailleurs. Le changement est ailleurs. Des fois, il n'y a pas de changement malgré nos prières parce que c'est ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire changer le plus que nos problèmes et nos situations, c'est nous. C'est toi. Mais ça, en tant que chrétien, on n'aime pas ça. Nous, on veut les solutions rapides. Nous, on veut le résultat de la situation. Mais le plus grand plan de Dieu, ça n'a jamais été tes circonstances. Le plus grand plan de Dieu, en fait, c'est toi et moi. Et parfois, le changement est ailleurs. Dieu veut changer ton cœur, ton caractère, ta confiance en lui. Et si Dieu te disait ce matin, et si je ne change rien à ta situation, est-ce que tu continueras à m'aimer? Est-ce que tu continueras à me faire confiance? Est-ce que tu continueras à me faire confiance, même si je ne change rien à ta situation? Il y a dans le livre de Daniel l'histoire de trois jeunes amis appelés Shadrach, Meshach et... Je savais que vous le connaissiez. Et Abednego. Ils sont au service du roi perse Nebuchadnezzar. Et moi, quand je suis avec les enfants, il y a une autre traduction qui s'appelle Nabucodonosor. Moi, je l'appelle Nabucodinosor. Ça aide les enfants à se rappeler de ça. Et ils ont été déportés du royaume d'Israël. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont brillants, un peu comme pasteur Mathieu. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça, c'est un truc qu'on fait pour se faire réinviter. Pour l'instant, ça marche. Chaque année, je suis réinvité. Et j'aimerais inviter les musiciens à bien vouloir s'approcher alors qu'on va terminer bientôt. Mais ce roi, il est un peu mégalo. Et il décide d'ériger une grande statue en or pour lui, pour l'adorer. Et il demande à tout le monde de l'adorer. Sauf que les trois amis qui aiment Dieu ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils disent non, non, nous on a un Dieu, puis on va servir ce Dieu-là, on va l'adorer. On s'agenouillera pas devant notre statue. Et voici ce que le roi leur dit. Parce que le roi, quand même, il les estime. Il leur dit, êtes-vous prêts maintenant, dans Daniel 3, êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? J'imagine. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, nous arrachera la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Voyez-vous, ces trois amis ne mettaient pas leur joie et leur espoir dans l'action éventuelle de Dieu, mais ils mettaient leur joie et leur espoir dans le fait qu'ils connaissaient Dieu. Et ça se pouvait que Dieu ne réponde pas à leurs prières. Ils en étaient bien conscients. Ils savaient que Dieu était capable. Ils savaient que Dieu pouvait le faire. Mais même s'ils ne le faisaient pas, on va quand même te faire confiance, Seigneur. On va quand même t'aimer. Parce que ma plus grande joie, mon plus grand espoir, c'est pas les choses que tu fais pour moi, c'est la relation que j'ai avec toi. C'est le fait que je te connaisse. Romains 5, 2 nous dit, ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance, l'espérance. Oui, le désir de Dieu au travers de ce qu'on traverse, même s'il veut nous libérer de nos détresses, je le crois. Et on va prier pour ça. Au-delà de tout ça, ce que Dieu veut, c'est nous façonner, c'est nous tailler comme une pierre précieuse. Parce que parfois, Dieu prend du temps pour changer notre épreuve. Parce qu'on a besoin d'abord que l'épreuve nous change. On a besoin que l'épreuve nous change, nous. La vie en général et notre vie de prière ressemblent parfois à ce rocher. Des fois, il semble qu'on prie pour des situations. Tu pries, tu pousses. On va prier encore. J'ai entendu le pasteur ce matin, il a dit persévère. Il faudrait que j'aille à la salle parce que... Mais notre vie ressemble à ça. Notre vie de prière peut ressembler à ça. Où tu pousses, et la vérité, c'est que ça n'a pas bougé d'un iota. Et est-ce que je crois à la prière qui abat les murs, qui transforme tout, au Dieu qui fait des choses extraordinaires? Totalement. Mais parfois, il y a des situations comme ce rocher, où on pousse, mais il n'y a rien. Et tu es au bout, et tu es là, tu pries. À quoi ça sert que je prie? Ça sert à quoi? Ça n'a pas bougé. Il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Et on est tenté de se dire, j'arrête, ça sert à rien. Moi le premier, je vous avoue. J'arrête. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Rien n'a changé. Vraiment? Es-tu sûr de ça? Toi, t'as changé. Toi, t'as changé. T'es devenu plus musclé. T'es devenu plus fort. Plus forte, plus résilient. Toi, t'as changé. Et pour ceux qui le savent et qui ont vécu des épreuves, on ne voudrait pas revivre ces épreuves-là. On ne veut pas les revivre. Mais on ne les regrette pas. Parce qu'elles ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est le plus grand désir de Dieu. C'est de nous changer, de nous transformer. Dieu permet à l'épreuve et à la situation de ne pas évoluer parfois parce qu'on se rapproche de lui. On se rapproche de lui dans les moments difficiles. Il nous prépare dans le secret et on devient plus sensible et on devient plus modelable quand il nous parle. Parce que le plus important avec la prière, c'est pas ce que tu obtiens, mais c'est ce que tu deviens. Le plus important avec la prière, c'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Alors je sais, c'est pas excitant ce que je suis en train de dire. Mais c'est la vérité. C'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Dieu est plus intéressé par ce que tu deviens que par ce que tu obtiens. Et pour ceux qui ont des enfants, vous le savez. Vous êtes content quand vous achetez des cadeaux à vos enfants. Mais ce qui est le plus important pour vous, c'est ce que vos enfants vont devenir, vrai ou pas? Je me rappelle un moment où je vis une épreuve difficile, où j'étais vraiment triste et il n'y a rien qui pouvait changer cette situation. Et à un moment donné, je me dis, ben, tant qu'à faire, autant aller prier. Et je me rappelle aller dans ma chambre et je suis seul dans ma chambre. Et ça ne dure pas 3 heures, hein. C'est juste un 15 minutes. Je vais dans la présence de Dieu, puis je prie, puis je dis « Seigneur ». Puis j'ai les larmes aux yeux, puis pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas le gars le plus émotionnel à pleurer, etc. Mais là, la situation, elle est terrible, et je pleure, et je pleure, et je prie. Et tranquillement, petit à petit, je commence à... Je ne sais pas pourquoi, dans la prière, souvent, on vient avec des requêtes, et tranquillement, plus notre prière avance, plus on s'en va vers les actions de grâce. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce que le Saint-Esprit est là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur moi et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai senti tout mon être, tout en moi, une joie qui ne venait pas de moi. Elle ne pouvait pas venir de moi, vu ma situation et vu mon état. Et je me rappelle, je suis rentré en pleurs dans ma chambre et je suis ressorti avec le sourire. Oh, les larmes continuent encore parce qu'elles étaient encore là. Mais j'avais le sourire. Et j'aimerais vous dire que quelqu'un m'a appelé et la situation a changé. Ben non. Ma situation n'avait pas du tout changé. La perspective n'avait pas changé. Mais moi, j'avais changé. Ma situation n'avait pas changé. Mais mon regard sur la situation avait changé. La vérité, c'est que la prière est davantage pour nous que pour Dieu. Parfois, dans la prière, c'est vrai que la situation n'a pas changé. Mais combien peuvent témoigner qu'alors que tu pries, ton esprit change? Ton regard change, ta perspective change, ton cœur change, ton caractère change. Tu changes. Et ta confiance et ton attachement à Dieu sont changés eux aussi, sont renouvelés. Il semble que parfois nos prières ne produisent pas les changements espérés. C'est possible, ça arrive des fois. Ce qui crée de la frustration et du découragement. Et plein de questions qui viennent. Est-ce que Dieu t'est là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu fais quelque chose? Si la prière est efficace, pourquoi ma situation ne change pas? Plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Il y en a plein. Mais Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, à ne pas lâcher, à continuer. Et à dire, Seigneur, je te fais confiance, peu importe. Si tu réponds, gloire à Dieu. Si ça prend du temps, gloire à Dieu. Et si tu ne réponds pas, gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se lever en terminant ce matin? Et à remettre nos vies devant Dieu et dire, Seigneur, je te fais confiance. Et peut-être qu'il y a des points qui t'ont touché, qui t'ont parlé ce matin, peut-être sur des choses que toi tu peux régler, peut-être. Peut-être sur des choses que Dieu peut faire. Et Dieu, de toute façon, fait toujours équipe avec nous, quoi qu'il arrive. Peut-être Dieu, certains t'appellent à persévérer ce matin. Il y a peut-être des prières que tu as arrêtées et Dieu te dit, reprends. Reprends pour cette personne. J'ai besoin que tu persévères. Persévère, ne lâche pas, continue. Et qu'alors qu'on va chanter le chant Persévère, qu'on va le reprendre ce chant-là, il parle de la vision, tout ça, mais qu'on puisse penser à nos prières, qu'on puisse penser aux gens envers lesquels on prie. qu'on puisse penser à des situations pour lesquelles on prie. Ne persévère, ne lâche pas. Il y a un combat spirituel. Et ce n'est pas vrai que la victoire, elle est comme ça. Et il y en a qui vont dire, « Oh, mais moi, je déclare que j'ai la victoire !» Tu peux déclarer tout ce que tu veux. Mais si tu ne vas pas livrer le combat, tu n'auras aucune victoire. La parole nous dit que la victoire est assurée. Vrai ou pas? Oui, la victoire est assurée. Mais pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Et parfois, les chrétiens, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit tranquillement et on dit, « Ah, Jésus, vas-y à ma place. » Il y est déjà allé de toute façon à la croix. Par contre, il y a un combat à livrer. Et ce combat, il est dans la prière. Il faut lutter, ne pas lâcher. Mais personne ne pourra y aller à ta place. Alors persévère, ne lâche pas. La victoire est assurée, oui. Mais ça prend que toi et moi, on s'humilie devant Dieu. Peut-être qu'on se mette à genoux et qu'on prie. Et qu'on continue à prier. Et qu'on continue. Et qu'on continue. Le juge unique frappe, frappe, frappe à la porte. Ça se peut que ça prenne du temps. Mais peu importe ce que Dieu fait, je continuerai à prier, je continuerai à lui faire confiance. Parce que mon Dieu est le plus grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu de fidélité, le Dieu de grandeur qu'on a? Que peu importe ce qui arrive, il est au contrôle. Il est tout puissant. Et ce matin, en terminant, j'aimerais prier pour ceux qui disent, moi j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. En ce moment, j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a ce matin? Ouais, j'aimerais prier pour vous en terminant. Parce que oui, on va persévérer. Mais je crois que Dieu veut donner des victoires ce matin. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier en tant qu'Église et prier pour ceux qui ont besoin de prière? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es présent ici ce matin. Merci parce que tu parles encore. Merci parce que nos prières ne sont pas vaines. Merci parce que tu nous écoutes dès le premier soupir qui sort de notre bouche. Même nos larmes, tu les recueilles, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour ceux qui vivent des situations en ce moment où ils disent, Seigneur, agis, j'ai besoin de toi. Fais un miracle. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es tout puissant. On l'a chanté ce matin et on le déclare encore. Seigneur, on te prie pour toute situation, Seigneur, que ce soit des situations de couple, Seigneur, que ce soit des situations de famille, au travail, Seigneur, personnel. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui agit. Et Seigneur, nous faisons appel à toi. Seigneur, parce que l'ennemi peut sembler grand, mais Seigneur, toi, tu es tellement plus grand, Seigneur. Et Seigneur, l'ennemi n'a pas de prise sur nous. Seigneur, je te prie pour des miracles, je te prie pour ces situations-là. Viens agir puissamment, viens faire ton œuvre, viens faire ce que nous, on ne peut pas faire, Seigneur. Merci parce que tu fais équipe avec nous. Tu nous demandes de prier, d'élever la voix. Et alors qu'on fait, toi, tu agis. Seigneur, je te prie pour ces situations urgentes, Seigneur. Viens agir promptement. Viens agir promptement, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous savons que tu vas agir. Fais ton œuvre, Seigneur. Seigneur, on veut se soumettre à toi, Seigneur. Et pour les sujets pour lesquels tu nous appelles à persévérer, Seigneur, on veut s'engager, Seigneur. On veut planter nos deux pieds et dire, Seigneur, je veux persévérer. Pour les choses, Seigneur, où on a du péché dans nos vies, Seigneur, on vient devant toi, on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché, je l'amène devant toi, et Seigneur, prends-le, pardonne-moi, viens me purifier, viens me justifier, Seigneur. Pour les choses que tu me demandes de faire, Seigneur, je veux obéir, je veux que rien n'empêche l'accomplissement de tes promesses dans ma vie, que rien n'empêche mes prières de pouvoir être efficaces. Alors, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et on vient devant toi, Seigneur, et on prie encore et encore. On vient te louer, on vient t'adorer pour qui tu es. Et Seigneur, quoi qu'il arrive, on va rester là. On va te faire confiance. Et on va continuer notre chemin avec toi. Mais Seigneur, on va persévérer. Seigneur, on veut s'engager à persévérer. Et on veut chanter ce chant. Persévère, persévère. Que ce soit comme une déclaration pour nos vies, sur nos situations. Dans le nom de Jésus, on a prié ce matin. Tout le monde dit amen. Prions. Prions ce matin, chantons, persévérons. Amen.
Ève dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais. Sers de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 oh. Car c'est une promesse, ma sœur n'est jamais vain, toujours fidèle. Son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe, son regard est sur ce.
On veut remercier le Seigneur ce matin qui nous encourage à ne rien lâcher, à persévérer. Et puis, si tu vis une situation, traverse un moment difficile, c'est encore un temps pour toi, juste dans quelques instants, alors que la célébration va s'achever. Il y a l'équipe d'écoute et prière qui est là aussi. Peut-être il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd, et puis tu ne sais plus trop par où prendre le bout là, de cette situation. Il y a une équipe qui va être juste là à tes côtés. Vous savez, un peu comme quand il y avait la bataille, Moïse était sur la montagne, et puis il y avait Josué dans la vallée, puis il se battait contre Amalek, et les bras étaient lourds à un moment, c'était difficile pour Moïse de garder les bras en l'air, et puis on sait qu'Amalek avait le dessus sur le peuple. Et là, il y a un Aaron et un Hur qui sont venus soutenir les mains de Moïse, et la victoire a été remportée sur Amalek. Parfois, et Stéphane en l'a évoqué dans ce verset, on croit à l'efficacité de la prière, mais on nous dit, va confesser, va partager aux frères et aux sœurs. Il y a une équipe qui est là pour ça, dans l'écoute avec bienveillance, peut-être pour juste encourager, te soutenir dans la prière, peut-être donner des paroles prophétiques aussi, dons spirituels, qui peuvent t'orienter, t'encourager parce que ton Dieu t'aime et il veut te voir persévérer. Amen. On veut souhaiter un bon dimanche à chacun, chacune, un bel été encore pour ceux qui sont en vacances, courage pour ceux qui travaillent ou qui ont repris le travail, et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.